cette semaine, dans ses conversations avec Daniel Habert, Blaise, Daniel Habert et vous avez tenu à revenir sur la fameuse conférence humanitaire qui a été organisée la semaine dernière par Emmanuel Macron. Alors voici l'analyse qu'en fait notre géopolitologue maison, en dehors d'Isaac Franco bien sûr, Daniel Habert.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Comme tous les lundis matins, nous conversons ensemble. Daniel, alors cette semaine, ce jeudi, le président français Emmanuel Macron a appelé à une conférence humanitaire. Alors pour commencer, pourquoi est-ce qu'on en parle, Daniel Habert?
Écoutez, l'humanitaire a envahi la question de Gaza de façon flagrante, hein, on en parle beaucoup, et on peut se poser la question de savoir pourquoi dans les conflits on parle si vite d'humanitaire. C'est que la Deuxième Guerre mondiale a fait prendre conscience que les guerres modernes finalement faisaient davantage de victimes civiles que de victimes militaires, donc c'était flagrant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la Shoah, mais il y a aussi les sièges des grandes villes. Et à la fin de la guerre, n'oublions pas les bombardements alliés, américains et anglais, qui ont détruit des villes entières en France, en Allemagne, et évidemment les bombes atomiques sur le Japon, qui ont fait des millions de morts par des bombardements et qui étaient des morts civiles. Donc ça a beaucoup impressionné ceux qui ont voulu organiser un ordre mondial nouveau après la guerre, et on a développé un certain nombre de traités, on a fait signer un certain nombre de traités autour de cette question humanitaire, et en particulier on a défini ce qu'on peut appeler aujourd'hui le droit international humanitaire, qu'on appelait aussi avant le droit de la guerre, et qui vise à limiter au fond le nombre de morts civiles. Bon, ça n'a pas empêché depuis 45 un grand nombre de conflits d'éclater qui ont fait essentiellement des morts civiles. Guerre de Corée, guerre du Vietnam, la partition de l'Inde, la partition du Pakistan, toutes les guerres du Moyen-Orient, et finalement la dernière, la guerre en Syrie et la guerre contre Daesh, où on a vu ce qu'on est en train de voir exactement à Gaza, c'est-à-dire la volonté d'en finir avec un mouvement terroriste, Daesh, en bombardant et en annihilant ce mouvement terroriste, en écrasant ces villes, les villes de Raqqa et la ville de Mossoul. Et une petite différence à l'époque, c'est que Daesh avait laissé sortir plus ou moins les civils de la ville à un certain moment, ce qui fait que les destructions étaient surtout des bâtiments et les gens de Daesh. Pas trop de morts civiles, mais il y en a eu quand même beaucoup. Donc voilà un petit peu cette nouvelle situation qui surgit évidemment normalement dans ce nouveau conflit.
On a parlé du président français Emmanuel Macron en introduction. Qui s'empare de cette aide humanitaire?
Oui, donc ce sont les États qui sont les premiers à invoquer ça, ceux qui sont pas partis au conflit d'ailleurs, qui disent aux partis au conflit arrêtez parce que vous violez soit les uns soit les autres le droit humanitaire. On avait déjà parlé de tout ça au moment de la guerre en Ukraine, au moment de la première invasion russe et qu'on avait découvert les atrocités autour de la ville de Kiev, les Boutcha, etc. Donc ça avait déjà été un thème. Donc immédiatement les États se sont emparé de cela. Macron a tenté de faire la première organisation structurée autour de cette question humanitaire. Beaucoup, cinquantaine d'États représentés, pas par les chefs d'État, mais par des ministres des Affaires étrangères et puis des ONG, qui ont essayé de mettre en place, au fond, deux choses. La première, rassembler de l'argent. Donc, au moins ça, c'est un succès. On parle de plus d'un milliard d'euros qui seraient disponibles pour acheminer de l'aide. Et puis, on a commencé à parler de pause humanitaire et recherche de ce cessez-le-feu, donc une espèce de balance entre pause, ça veut dire très temporaire, cessez-le-feu, ben, c'est arrêter les combats. Et on a vu tout récemment Macron hier et ou avant-hier, les jours précédents, pousser davantage vers le cessez-le-feu, ce qui est au fond empêcher Israël de vaincre le Hamas. Donc on voit bien que le droit humanitaire finalement débouche sur une vraie question géopolitique, empêcher l'une des parties d'atteindre son objectif militaire, qui est pour Israël d'en finir avec le Hamas à Gaza. Il n'y a pas que donc les États qui s'en occupent, il y a beaucoup les organisations internationales. La première, l'ONU, où on voit Antonio Guterres, le patron de l'ONU, enfin le secrétaire général de l'ONU, s'emparer de la question humanitaire pour, au fond, obliger, forcer Israël à arrêter les combats, ce qui est impensable. Et puis vous avez Médecins sans frontières, le CICR, Amnesty, qui sont sur le terrain souvent et qui font appel au fond à l'émotion des gens et en reprochant tous à Israël de ne pas laisser travailler et en oubliant les victimes israéliennes, les otages, le fait que aussi il y a eu des déplacements de population non seulement dans Gaza mais en Israël d'ailleurs. Plus de 150 000 Israéliens qui ont quitté leur foyer dans le sud et dans le nord. Donc, on voit bien aussi là que les organisations internationales en penchent plutôt d'un seul côté. Et puis les médias qui s'emparent de ce thème parce que c'est un thème émotionnel qui peut évidemment devant une photo de bébé qu'on a cherché on ne sait où verser des larmes. Donc, vous voyez, tout ça fait que cette question humanitaire qu'on traite aujourd'hui prend une importance probablement démesuré par rapport à la réalité de terrain qui est que la guerre continue.
Alors, parlons des thèmes qui ont été abordés dans cette conférence humanitaire. Quels étaient c'était quoi?
Dans cette conférence et en général, on parle de quoi quand on parle d'humanitaire? On parle de deux choses. Un, le viol du droit international humanitaire, le viol du droit de la guerre, avec deux composantes. Vous pouvez pas, en visant des cibles civiles, militaires, pardon, faire trop de victimes collatérales. C'est ça le problème de la proportionnalité. Bien sûr, il est tout à fait légitime de viser des sites militaires, mais vous pouvez pas faire trop de dégâts collatéraux. Le trop étant évidemment extrêmement flou et chacun peut juger ce qu'il est. Nous pensons que l'armée israélienne, c'est celle qui prend le plus de précautions dans le monde. Les bombardements américains et anglais en 1945 sur la France, l'Allemagne et le Japon étaient totalement indiscriminés. C'était des bombardiers qui volaient à 10 000 mètres et qui jetaient des tapis de bombes. Là, au bout de plus d'un mois de guerre, vous n'avez que, excusez-moi de l'expression, que 10 000 morts. Tout Gaza aurait pu être rasé en un mois. Donc c'est évidemment extrêmement ciblé, mais il y a toujours le moyen de critiquer cette proportion entre la cible militaire et les dégâts collatéraux. Puis la deuxième chose, c'est le blocus. Vous ne laissez pas entrer, etc. Alors que chaque jour entrent des camions, donc c'est un mensonge. Et enfin, il y a cette réclamation de pause humanitaire ou de cesser le feu. Israël a bien géré ces questions pour l'instant et en particulier se met d'accord avec ceux qui le demandent sur cette idée de pause humanitaire, ce qui permet d'organiser le départ des populations civiles du nord de Gaza vers le sud. Donc finalement, Israël a intérêt aussi à organiser des pauses humanitaires pour pouvoir déplacer le maximum de population vers le sud, comme ça pouvoir s'occuper du Hamas au nord et puis faire arriver l'aide humanitaire par le sud, là où il y aura les populations civiles, mais c'est déjà le cas. Donc, on a vu déjà un certain nombre de responsables militaires israéliens dire ne parlez pas de catastrophe humanitaire, il y a des difficultés énormes, mais tout ça est fortement exagéré, notamment par les médias.
Pour terminer nos conversations, Daniel Haber, il nous reste 1 minute 30. Cette conférence, où je rappelle, Israël n'était pas représenté, elle a été efficace?
Écoutez, non, je pense que cet appel, notamment au cessez-le-feu qui rejoint d'autres appels, notamment de l'ONU, n'est pas écouté par Israël qui est extrêmement déterminé à mener les opérations comme il le veut. Donc ça finit par être plutôt une pression très forte sur Israël, mais en fait Israël ne répondra qu'à une seule pression, c'est celle des Américains. Et donc c'est celle qu'ils écoutent. Donc la pression américaine n'étant pas encore là. Biden disant ce qu'il doit dire, on n'en est pas là. Finalement, l'Europe est la seule qui parle de tout cela parce qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir un poids géopolitique, puisqu'elle n'est pas une entité politique, parce qu'elle n'est pas une entité militaire. Donc elle ne se saisit que ce qu'elle peut saisir. Et finalement, ça se terminera par l'Europe paiera, donnera de l'argent. Et pour Israël, il faut absolument qu'elle fasse inclure dans le droit humanitaire, puisque tout le monde en parle, ses propres droits, le problème des otages, dont on ne parle pas suffisamment, et le problème des déplacements de population. Et donc tout ça, pour l'instant, est assez déséquilibré en défaveur d'Israël. Et donc Israël est un peu seul, avec les États-Unis, à mener un combat qu'elle mène avec détermination, je pense avec pas mal d'efficacité.
Daniel Haber, merci pour vos analyses. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.